sera adapté pour une situation en Afrique. Donc, il faut que nous menions des recherches donc, sur le terrain pour pouvoir décrire l'infection, l'épidémiologie de l'infection, pour pouvoir après savoir quel est l'outil de prévention ou thérapeutique le plus adapté. Et donc là, par exemple, nous, on regarde les gens qui ne sont pas malades, mais qui portent le virus. Nous regardons quelle est cette proportion dans la population congolaise. Bon, ça, ce sont des données très importantes. L'infection chez l'homme et chez la femme. Nous regardons les réponses immunologiques. Ce sera très important après pour la future évaluation du vaccin sur notre population. Donc ce sont des travaux que nous conduisons actuellement. Nous travaillons aussi sur un outil de diagnostic encore plus précis qui utilise la PCR, mais encore plus précis en collaboration avec l'IRD en France. Voilà, et nous nous préparons par rapport au vaccin, justement, nous, en tant qu'Africains, nous nous préparons aussi à pour ce vaccin. Comment ? Justement, quand nous travaillons sur nos populations, comprendre l'infection, c'est notre contribution déjà à l'utilisation, au développement de ce vaccin. Parce qu'un vaccin, quand le vaccin est fabriqué, sa vie, son développement continue. Parce que déterminer comment il doit être appliqué fait partie du développement du vaccin. Et là, nous pouvons contribuer en tant qu'Africains, et c'est le travail que nous faisons en étudiant la pandémie, l'infection Covid sur nos populations. Et pour finir, excusez-moi d'être un petit peu longue, nous avons en période de confinement élaboré un respirateur made in Congo qui fonctionne pour pouvoir sauver des vies, justement, en se disant nous n'avons pas assez de respirateurs, que faire? Eh bien, utilisons la capacité de nos ingénieurs, l'impression 3D, et à la fondation avec l'université Marien Ngouabi et une biotech nationale ici au Congo, nous avons fait un prototype de respirateur artificiel.
Oui, c'était effectivement la question d'Alphonse Bouaki aussi. Il avait dit que les respirateurs artificiels font défaut dans plusieurs pays africains. Mais en RDC, il a dit que la faculté polytechnique de l'université de Kinshasa a commencé à fabriquer des respirateurs artificiels pour à la carence de ces instruments. Et il voulait savoir qu'en est-il de Brazzaville? Est-ce qu'il y a des recherches en ce sens?
Exactement. Donc, nous travaillons là-dessus. Donc, nous en avons fait un qui fonctionne. Maintenant, nous sommes en train de l'améliorer parce que le premier prototype a été fait en période de confinement. Donc, évidemment, vous savez que les trois quarts de nos besoins sont importés. Donc, les besoins en électronique sont les cartes, etc., sont importés, achetés via Internet. Et pendant le confinement, nous étions coincés. Alors, c'est là où l'intelligence, l'imagination, la créativité de nos jeunes est intervenue. Ils utilisaient des systèmes par rapport aux essuie-glaces de voiture. Enfin, il a fallu faire marcher toute l'imagination avec ce que l'on avait autour de nous pour mettre en place ce prototype qui était, ma foi, qui était satisfaisant. Maintenant, ce prototype est en train d'être amélioré, vu que nous pouvons faire des achats à l'extérieur, mais encore une fois, pour avoir quelque chose de fonctionnel au Congo, utilisable au Congo, et évidemment qu'il soit le moins cher possible si nous étions amenés à le vendre. Mais pour le moment, c'est plutôt de l'assistance pour pouvoir assister donc les systèmes de santé en urgence. Voilà.
Mais vous savez que la recherche, c'est toujours de l'argent. Est-ce que vous bénéficiez des soutiens financiers pour mener ces recherches contre le coronavirus?
Alors oui, parce que justement, cette pandémie du coronavirus, pour les scientifiques, a été une très grosse opportunité de financement. Il n'y a jamais eu en si peu de temps autant de financement sur une maladie. Donc, il faut écrire de bons projets et aller à la recherche de ces financements. Donc, les financements sont là. Les bailleurs de fonds sont là pour répondre aux besoins des scientifiques. Donc, mais vous me direz, quelle est la part de la contribution financière africaine? dans toute cette, dans tout ce fonds mondial important dans la recherche sur COVID-19. Et c'est là où, effectivement, peut-être où le gap est. Il y a très peu de financement pour la recherche, en tous les cas, mis à disposition, malheureusement. Très malheureusement, nous essayons tous de faire un plaidoyer, mais malheureusement, ce plaidoyer n'est pas encore très payant. Il faudrait absolument que tous les gouvernements africains utilisent, comprennent, grâce ou à cause de cette pandémie, que l'autonomie, n'est-ce pas, l'indépendance scientifique est importante. Chaque pays doit être capable quand même de pouvoir faire un diagnostic de qualité, de pouvoir répondre à certains besoins de santé localement sans avoir à aller demander de l'aide extérieure. Et ce confinement nous a montré cela, n'est-ce pas, qu'il fallait qu'on se débrouille par nous-mêmes. Et mon espoir est que les autorités comprennent qu'il faut investir, parce que quand toutes les portes sont fermées, ils n'ont plus que nous.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Vous avez évoqué une collaboration avec une institution en France. Est-ce qu'au niveau de la sous-région en Afrique, vous collaborez aussi avec d'autres laboratoires ou d'autres institutions qui, comme vous, mènent des recherches contre le coronavirus?
Oui, absolument, absolument, parce que je dirige le réseau Pandora, qui est un réseau financé par la Commission européenne et le DCTP, donc le partenariat Europe-Afrique pour les essais cliniques. Et justement, ce réseau comprend des pays européens, des pays africains, de toute l'Afrique. Et nous tous, donc, puisque ce réseau a été mis en place pour assister nos pays à répondre aux épidémies de maladies infectieuses. Vous voyez, on avait vu loin, puisque ce réseau a été créé en 2018. Grâce à ce réseau, évidemment, nous échangeons des informations, des protocoles, nous partageons des expériences, voilà. Et cela nous aide beaucoup, nous partageons nos doutes et évidemment nos succès aussi. Donc, la recherche, nos recherches ne sont pas faites vraiment en vase clos. Nous collaborons, nous échangeons énormément, énormément. Et cette pandémie même nous a ouvert des... Là, je suis dans un réseau avec l'Afrique, l'Amérique du Sud. Les scientifiques ont besoin de partager, parce que ce virus est tellement inconnu que chacun doit dire ce qu'il observe et écouter ce que l'autre dit pour voir si l'autre observe la même chose ou et ensemble trouver des interprétations. Donc, c'est très, très intéressant dans ce sens-là. Donc, dans la sous-région, le Gabon, le Cameroun, le Congo démocratique, nous échangeons régulièrement avec les collègues et puis les collègues d'un peu plus loin aussi, évidemment.
Dans vos recherches que vous menez, est-ce qu'il est arrivé un moment ou bien à quelles difficultés vous êtes parfois confrontés? Est-ce qu'il y en a?
Oui, les difficultés, ben, vous avez mentionné... Le soutien à la recherche, c'est-à-dire que, par exemple, les comités d'éthique, il est important que les comités d'éthique, vous avez parlé du vaccin très justement, de ce vaccin contre Covid qui va arriver. Alors, il faut que les comités d'éthique commencent à comprendre ce que veut dire ce vaccin, parce que si le vaccin est introduit dans un pays, il faut que ce vaccin, le pays approuve l'entrée du vaccin, n'est-ce pas? Les médicaments, les vaccins ne rentrent pas comme ça dans un pays. Il faut des autorisations. Et qui donne ces autorisations? Ce sont les autorités de régulation et les comités d'éthique. Les comités d'éthique donnent leur avis si, parce que ce vaccin doit être essayé sur la population. Donc, il faudrait que toutes ces autorités comprennent que là aussi, il y a une réflexion en amont à avoir. Donc, et là, on ne sent pas beaucoup cette concertation, cette réflexion, à savoir anticiper, voilà, cette anticipation. Comment on évalue un protocole d'essai clinique vaccinal? À quoi doit-on faire attention? Voilà, et s'approprier cela, sachant encore une fois qu'il y aura d'autres épidémies. Covid-19 n'est pas la dernière. Donc, de façon que lorsque d'autres épidémies arriveront, tout le monde sera mieux préparé. Tout le monde. Et ça fait partie de la recherche, hein. La préparation des autorités de régulation, la préparation des comités d'éthique, l'implication des sciences sociales, des sociologues, qui sont des scientifiques très importants et très négligés, malheureusement, en Afrique, pour comprendre nos populations. C'est très important et malheureusement, cela n'est pas pris en compte. Et donc là, je pense qu'il y a un très, très gros problème. Et évidemment, le problème financier, nos autorités doivent comprendre qu'ils doivent investir dans la science. Il n'y aura pas d'indépendance. On vient de fêter l'indépendance du Congo, n'est-ce pas? Ben alors, c'est bien sympathique, mais nous ne sommes pas indépendants. Je considère que nous ne sommes pas indépendants. Nous consommons la science développée ailleurs. Nous ne sommes pas indépendants.
Beaucoup de pays africains ont déjà levé les mesures qu'ils avaient prises pour lutter contre le coronavirus. Et Brazzaville, au Congo, dès lundi 24 août 2020, les frontières aériennes fermées depuis mars vont être rouvertes. Alors, quels sont les conseils que vous pouvez donner aux gens pour que ces personnes-là continuent à se protéger, puisque nous savons que le virus est encore là, malgré l'ouverture de frontières, malgré la levée des mesures prises pour lutter contre le coronavirus?
Ben, c'est de respecter, de rester toujours vigilant, à savoir masque, gel hydroalcoolique, distanciation. Continuer à respecter, continuer à, malheureusement à se dire que la personne qui est en face de moi est peut-être porteuse. Est-ce que je veux qu'elle me contamine? Non. Alors, voilà, je dois me comporter comme si j'avais à chaque fois en face de moi une personne porteuse du virus. Et je pense que si chacun se dit cela, alors nous ferons attention. Et on fera attention à soi, mais en faisant attention à soi, nous protégerons les autres aussi. Voilà. Donc, il faut continuer vraiment à rester extrêmement vigilant et respecter les mesures barrières tant que ce vaccin n'est pas disponible. Voilà. Puisqu'il n'y a pas de traitement non plus. Aujourd'hui, il n'y a pas de traitement spécifique contre cette maladie. Donc, tous les espoirs sont dans le vaccin. Mais tant que ce vaccin préventif n'est pas là, nous devons faire attention.
À votre niveau, vous savez combien de temps pourraient prendre les recherches avant d'arriver à un résultat probable de découverte d'un vaccin ou d'un traitement efficace, vraiment?
Je crois que le traitement semble beaucoup moins avancé que le vaccin. Il y a beaucoup d'essais de molécules existantes, à part remdesivir et puis dexamétasone qui ont montré qu'il y a vraiment une efficacité, mais là, c'est pour le Covid-19 sévère. Donc il y a encore besoin d'essayer de trouver des traitements prouvés efficaces, pas des traitements dont chacun dit qu'il est efficace sans preuve, mais des traitements prouvés efficaces. Il y a encore besoin de travail. Pour le vaccin qui a l'air là, c'est une course tellement rapide. Nous espérons que l'année prochaine, un premier candidat vaccin sera devenu vaccin, fin 2021. Ça, c'est l'espoir, puisqu'il y a déjà 3 vaccins qui sont en phase 3, là, en 2020. Donc, si les procédures vont aussi vite, si c'est un de ces candidats vaccins montre une efficacité satisfaisante pour les autorités de régulation, moi, je pense que d'ici 2021, fin 2021, il pourrait y avoir un vaccin. Ce serait une première dans l'histoire des vaccins, mais on sera en 2021, donc au 21e siècle, peut-être que voilà, les choses doivent aller plus vite. Quand les fonds sont là, la science peut avancer plus rapidement et que tout le monde va dans la même direction, les choses peuvent avancer plus rapidement, absolument.
Merci beaucoup, professeur, d'avoir accepté de répondre à nos questions et d'être notre invité pour cette émission « Votre santé, votre avenir ».
Merci pour cette invitation et pour cet échange. Et portez-vous bien, prenez soin de vous.
C'était notre entretien avec la professeure Francine Ntoumi, biologiste moléculaire et présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale à Brazzaville, en République du Congo. La professeure Ntoumi a expliqué comment son institut est activement impliqué dans les recherches relatives, entre autres, aux tests de diagnostic rapide du COVID-19, aux vaccins et aux respirateurs artificiels. Cette interview faisait suite à celle qu'elle nous a accordée dans notre édition santé de la semaine dernière. Maintenant, place à Carnet de santé, présenté par Linan Moudou.
Cette semaine, dans Carnet de santé, rentrée scolaire à l'ère du coronavirus. Comment assurer la sécurité des élèves et du personnel? On en parle. Nous verrons certaines recommandations de l'UNICEF nécessaires à la prévention et au contrôle du COVID-19 dans les écoles. Ensuite, nous avons recueilli vos réactions sur la réouverture des écoles durant la pandémie. Bonjour, Linor Moudou en votre compagnie. Je suis ravie de vous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. C'est la rentrée scolaire pour de nombreux élèves et étudiants dans le monde entier. Mais cette année, le retour à l'école est très différent pour les familles, les écoles et les éducateurs, car le monde est toujours aux prises avec la pandémie de coronavirus COVID-19. Alors que les établissements luttent pour rouvrir en toute sécurité sanitaire, les derniers chiffres du coronavirus par le programme conjoint de surveillance de l'OMS et de l'UNICEF révèlent que 43% des écoles du monde entier n'avaient pas accès au lavage des mains de base avec du savon et de l'eau en 2019. Une condition clé pour que les écoles puissent fonctionner dans de bonnes conditions sanitaires, ce qui les expose à un risque élevé au COVID-19 et d'autres maladies transmissibles. Plus d'un tiers de ces enfants sont en Afrique subsaharienne. Le rapport identifie plusieurs ressources nécessaires à la prévention et au contrôle du COVID-19 dans les écoles, notamment l'utilisation d'équipements de protection individuelle, le nettoyage et la désinfection, ainsi que l'accès à de l'eau propre, à des postes de lavage des mains avec du savon et à des toilettes. Certains élèves et étudiants reprennent le chemin de l'école. Beaucoup d'autres suivent leurs cours en ligne en raison du COVID-19 ou participent à un modèle qui combine l'éducation virtuelle et la présence en classe. Pour en savoir davantage, je me suis entretenue avec le docteur Esther Ngumbi, professeure adjointe à l'Université de l'Illinois.
It's a difficult situation because it's hard and especially at
Il s'agit d'une situation difficile, surtout que la maladie se propage rapidement et elle aura un impact sur la sociabilité des étudiants qui reviennent. Ils ont été loin du campus, ils sont donc ravis de se voir et le maintien de la distance physique pourrait être un problème. C'est donc un risque réel. Mais je sais que les universités font de leur mieux pour rester prudentes. Dans notre université, par exemple, nous devons faire les tests deux fois par semaine et cela est obligatoire pour les professeurs et les étudiants. Donc, si vous avez vraiment besoin d'être à l'université, oui, vous devriez faire votre test deux fois par semaine. Au moins, ils disent que cela nous donne l'assurance et nous pouvons savoir rapidement si une personne est infectée. Ainsi, elle ne sera pas autorisée à venir dans les salles de classe. Donc, voici quelques-unes des mesures supplémentaires que nous prenons. Et nous savons que de nombreuses universités mettent en place des mesures pour au moins garantir le maintien de la distance physique. Pouvons au moins respecter les consignes qui ont été données par les CDC. Mais la bonne nouvelle aussi est que la plupart des universités vont également fermer assez tôt. Et donc, cela durera jusqu'en novembre, puis nous terminerons avec les étudiants dans les classes. Deuxièmement, les salles de classe sont également un peu plus petites pour permettre une distance physique. Et beaucoup de cours avec des milliers d'étudiants n'auront pas lieu. Et même si cela devrait se faire, il y a des règles. Vous ne pouvez pas avoir plus de 50 élèves par classe, par exemple. Nous avons également amélioré nos installations avec le nettoyage et tout. Nous prenons donc des mesures, mais c'est dur et seul l'avenir nous le dira.
Un groupe de défense de l'éducation a une solution pour ramener les élèves à l'école en toute sécurité au milieu de la pandémie de coronavirus. Déplacer la salle de classe à l'extérieur. Sharon Greendank est la PDG de l'organisation à but non lucratif Green Schoolyards America, basée à Berkeley en Californie. Elle explique l'initiative.
Je pense que toute réponse à la crise de la pandémie de COVID coûte cher et qu'il y a des écoles à travers le pays qui investissent dans des séparateurs en plastique et des équipements spéciaux, ainsi que des systèmes de ventilation à l'intérieur des bâtiments. Et ceux-ci sont extrêmement coûteux. Et ce que nous pensons faire à l'extérieur est dans l'ensemble beaucoup moins cher. Et cela peut inclure une infrastructure très simple, comme l'ajout de balles de paille pour les sièges qui coûtent 10 dollars chacune. Toutes les salles de classe n'ont pas besoin d'une structure d'ombrage. Si on les réalise, elles sont un peu plus chères, mais elles coûtent beaucoup, beaucoup moins, juste une fraction du coût d'achat d'une salle de classe mobile et de sa mise sur le terrain de l'école.
Nous avons demandé votre avis sur la réouverture des écoles pendant la pandémie de coronavirus. Êtes-vous inquiet? Voici ce que certains enseignants et étudiants d'Abuja au Nigeria ont partagé avec Owal Saliu de la VOA.
Je ne suis pas vraiment inquiète car l'école a mis en place des mesures de sécurité pour éviter de contracter le virus, comme le contrôle de température avant d'entrer dans l'école, la désinfection, le lavage des mains avant d'entrer dans les classes et la distanciation physique.
Oui, j'ai peur de contracter le coronavirus et de le propager dans ma famille à la maison. Mon école nous a fourni des installations pour nous laver les mains. Lorsque nous entrons ici, nous devons porter nos masques faciaux, observer la distance physique et utiliser des désinfectants pour les mains. Et à la porte, ils prennent notre température.
Je suis vraiment préoccupée par la peur de contracter le virus, car il peut y avoir une possibilité que quelqu'un ait le virus ici à l'école. Pour les mesures de sécurité, dès que je rentre à la maison, je me lave les mains et je prends mon bain pour éviter la propagation du virus.
Oui, en tant qu'établissement, nous sommes très préoccupés par la sécurité de nos élèves. Et pour cela, nous avons pu mettre en place les mesures recommandées par la ville. Par exemple, nous avons des machines pour le lavage des mains placées à des points stratégiques pour permettre aux élèves et aux enseignants de les utiliser assez régulièrement pendant leur séjour à l'école.
Le COVID-19 a été une préoccupation majeure, non seulement au Nigeria, mais dans le monde en général. Je tiens à dire, en tant que parent et administratrice d'établissement scolaire, cela a été une préoccupation majeure. Dieu merci, nous sommes maintenant de retour à l'école. Les mesures sanitaires ont été mises en place avant le retour des élèves dans les classes d'examen.
Merci de votre fidélité à Carnet de Santé. D'ici la semaine prochaine, on se lave les mains fréquemment et on utilise un masque en public, selon les experts. Portez-vous bien et à très bientôt.
C'est la fin de cette édition hebdomadaire de Votre Santé, Votre Avenir. Dans ce programme, nous avions reçu la professeure Francine Ntumi, biologiste moléculaire et présidente de la Fondation Congolaise pour la Recherche Médicale à Brazzaville, en République du Congo. La professeure Ntumi nous a expliqué comment son institut est activement impliqué dans les recherches relatives, entre autres, aux tests de diagnostic rapide du COVID-19, aux vaccins et aux respirateurs artificiels. Ensuite, Linor Moudou nous a présenté Carnet de Santé dans la deuxième partie de notre programme. Ce magazine Santé a été présenté par Nani Tetalani. Il a été réalisé grâce au concours de Michel Joseph. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.